pense que cette crise est liée à trois caractéristiques de la période qui vient s'écouler. La première, c'est la cupidité. La deuxième, c'est la complexité. Et la troisième, c'est la conflictualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conflictualité, pas les sorciers. C'est le constat que par rapport à la mondialisation des problèmes, malheureusement, les continents et les États, commencés par le nord, l'Europe, ont agi et continuent d'agir en ordre dispersé. Bon. Or, quand une crise est mondiale, quand des problèmes sont mondiaux, eh bien, l'efficacité commanderait qu'il y ait une coopération au niveau des solutions. Or, la caractéristique de ce qui s'est passé depuis au moins 20 ans, c'est que, au-delà d'un certain nombre d'actions communes, les grandes puissances ont agi d'une façon au minimum séparée et au maximum conflictuelle. Et cette conflictualité, par rapport aux exigences qui devraient être celles de la coopération, c'est une des grandes explications de l'approfondissement et même du déclenchement de la crise. Mais revenons sur le premier point. La cupidité. Alors évidemment, la cupidité, c'est un mot un petit peu valise. Mais qu'est-ce que je veux dire par cela? Bon, vous savez que cette crise est née aux États-Unis. C'est pas hasard si c'est aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont la première puissance, de tous les points de vue, économique, militaire, culturel, technologique, etc. Et que ce sont eux, avec leur force et leur faiblesse, qui donnent le là du système. Et ce système a petit à petit dérivé. Pourquoi? Là, on est vraiment dans le cœur de l'acteur, parce qu'on ne peut pas espérer venir à bout de la crise par une régulation si on ne comprend pas, si on ne se met pas d'accord sur l'origine de cette crise. Cette crise, à mon sens, mais je ne suis pas seul à penser cela, est née d'une exigence de rentabilité financière qui est sans rapport avec ce que peut fournir un développement économique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que peu à peu s'est établie dans le monde l'idée que la rentabilité exigible du capital était, chaque année, on vous dit 15%, mais très souvent et dans certains secteurs, c'est 20%, 25%, 30%. Quand ce n'est pas la norme. C'est-à-dire que la norme s'est établie à travers le monde, que la rentabilité qui peut être exigée chaque année du capital, c'est 15, 20, 25%. Or, ces niveaux-là sont incompatibles avec ce que la production économique, dans la plupart des secteurs, peut générer. Il n'est pas vrai. Regardez dans les secteurs que vous connaissez, que une entreprise, création de richesse se fait dans les entreprises, puisse, dans des secteurs entre guillemets normaux, générer chaque année 15, 20, 25, 30%. Pas comme ça. Ça dépend des secteurs. Mais lorsqu'il y a, compte tenu des progrès de productivité, une hausse de 5, 10%, c'est déjà quelque chose qui n'est pas vu. Alors, à partir du moment où cette exigence de rentabilité est sans commune mesure avec la création physique de richesse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pour arriver à satisfaire cette exigence de rentabilité, il faut jouer sur la part compressible, sur la part variable. Et donc, vous avez, et cela, ce n'est pas l'invention du grand Fabius, c'est la grandeur de la rentabilité nationale, au plan mondial, un partage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesse, entre les salaires d'une part et les profits, qui se fait à l'avantage des profits, à cause même de l'exigence que je viens de rappeler, et qui se fait au détriment des salaires. Et ça, c'est quelque chose qui est constaté, alors documenté, comme on dit, dans les grands pays, États-Unis, Grande-Bretagne et autres. Mais, évidemment, cette déformation, diminution de la part relative des salaires par rapport aux profits, pose d'énormes problèmes économiques, parce que les salaires On l'oublie un peu dans le cadre de la mondialisation, alors que Ford, vous savez très bien au niveau d'un pays, c'est aussi ce qui crée le pouvoir d'achat, donc la consommation. Il faut donc qu'il y ait un élément de substitution. L'élément de substitution, mécaniquement, devient l'endettement. Ce que vous ne pouvez pas alimenter en termes de salaire direct, si vous voulez que tout de même le mécanisme fonctionne, vous êtes obligé d'y avoir recours par l'endettement. Et du même coup, c'est développé, d'abord aux États-Unis, mais ailleurs, je viens dans un instant, une mécanique de l'endettement, une logique de l'endettement, qui est venue alimenter la croissance économique comme substitut au pouvoir d'achat et au salaire. Cela a joué, alors maintenant ça commence à être bien connu, en particulier dans le domaine immobilier, avec le phénomène, maintenant tout le monde parle de ça, des subprimes, c'est-à-dire, puisque les États-Unis sont un pays où on n'épargne pas, au départ, où les salaires étaient eux-mêmes limités et bridés, eh bien, un mécanisme d'endettement a été mis sur pied par le crédit hypothécaire, etc., où, au fond, les gens ont pu se payer des logements, au-delà même de ce qu'était leur savoir, en anticipant sur la valorisation permanente de ces logements. Donc, un cycle très très compréhensible d'endettement. Ceci a joué dans le domaine immobilier. De la même façon, et d'une façon encore plus ample, ceci a joué dans l'ensemble des mécanismes financiers. Car à partir du moment où, d'une part, l'économie réelle ne pouvait pas engendrer les taux de rentabilité exigés, et d'autre part, les opérateurs principaux initiés étaient intéressés au mécanisme d'endettement, se sont développés dans les entreprises, dans le secteur financier, mais plus largement, toute une série de mécanismes qui ont eu pour objet, au-delà de la réalité économique, de créer des mécanismes d'endettement, ce qu'on appelle des bulles. D'où le phénomène, qu'on appelle en particulier le phénomène de la titrisation, qui, au-delà de la prétention du mot, est très facile à comprendre. Vous avez des créances, vous avez des dettes. Normalement, ça devrait être inscrit à l'actif ou passif de votre bilan. Si vous voulez avoir une possibilité de présenter un bilan plus correct, vous faites masse de vos créances, que vous revendez à d'autres, vous le sortez de votre bilan, vous faites comme s'il n'y avait pas d'exigibilité de cela, et du même coup, ça permet d'avoir ce qu'on appelle en termes techniques un effet de levier, qui peut être 5, 10 fois, 20 fois ce que vous avez en réel. Ce mécanisme fonctionne tant que dans ce château de cartes, il n'y a pas une carte qui s'effondre. Mais à partir du moment où, dans le domaine immobilier, un beau jour, on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les immeubles cessent de progresser de 10% chaque année, et à partir du moment où, dans le domaine industriel, dans le domaine financier, parce que certains établissements font faillite, on vient demander aux entreprises qu'est-ce qu'il y a dans la réalité de leur bilan, tout le château de cartes s'effondre. Économie de l'endettement. Alors, bien, comment on est arrivé à ça? C'est là où il y a l'autre élément, qui s'appelle la complexité, la cupidité, la cupidité. Parce qu'évidemment, si vous avez une rentabilité de 20 ou 30% par an, il y a un certain nombre de gens qui gagnent davantage que si c'était 5%. Surtout quand les mécanismes sont faits de telle manière qu'à chaque fois qu'il y a des effets de levier et qu'à chaque fois qu'il y a une rentabilité plus forte, un certain nombre de personnes que j'appelle les initiés gagnent davantage. C'est le problème des traders. C'est le problème de la dérive, pas des options, mais de la dérive des options. En gros, quelqu'un est rémunéré, non pas sur l'économie réelle, mais sur la capacité qu'il a à ce que la finance dépasse l'économie réelle. Économie casino. Le jour où on s'aperçoit que le roi est nu, les choses s'effondrent. Donc, complexité et cupidité, les deux choses étant liées. Il faut que les mécanismes soient si complexes qu'on ne puisse plus savoir, à un moment donné, qui a quoi dans son bilan. Parce que vous avez des actifs qui portent des noms assez imaginés, dont on dit « Ah, mais c'est sûrement garanti, là interviennent les agences de notation, qui vous disaient, y compris la veille du krach d'AIG, que AIG c'était Triple A. Il n'y avait pas mieux. Trois jours plus tard, ça valait pas un clou. Mais elles-mêmes, les agences de notation, il y en a trois dans le monde, il n'y en a pas 25, sont intéressées à ce que ce système se développe. Et complexité donc, manque de transparence et cupidité.